Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est vers l'Égypte que nous allons nous diriger pour aborder l'histoire de Al Turbini, le terrible tueur du train express. Voici son histoire. Ramadan Abdelrahman est né en 1980 à Tanta, en Égypte, dans un quartier pauvre de la ville. La privation et la pauvreté chronique sont la raison pour laquelle sa famille l'a envoyé dans la rue alors qu'il n'avait 12 ans. Il s'est mis à travailler dans l'une des cafétérias de la gare du Caire pour aider sa famille à survivre. Mais dans la ville grouillante, c'est la loi de la jungle qui règne. Très vite, le jeune Mansour est harcelé et intimidé par un voyou plus grand et plus costaud que lui. Tous les jours, il le guette au coin d'une ruelle, le bat et lui vole son maigre pécule durement ramassé. Un jour, Mansour décide de ne plus céder à ce tyran et refuse de lui donner son argent. La réaction du méchant voyou, appelé Abdou Turbini, est violent et horrible. Il traîne de force Mansour sur le toit d'un train et le viole. Après avoir terminé, il le jette du haut du train. Mansour ne meurt pas, mais l'incident lui cause de graves blessures à la tête, un strabisme à l'œil droit, une blessure profonde à l'abdomen et à la jambe gauche, et il doit rester un mois à l'hôpital pour recevoir des soins. Cette expérience va changer radicalement Mansour. Ce n'est plus le petit garçon insouciant. Il est désormais atteint de troubles psychiques multiples. Il quitte définitivement sa famille et devient un enfant de rue et rejoint un gang. Là, on lui enseigne des techniques de survie et les membres de gang le coupent de force avec des rasoirs s'il fait des erreurs. Le temps passe, Mansour, qu'on appelle désormais Ramadan, grandit et s'endurcit. C'est lui le chef du gang maintenant. Il a réussi à imposer son autorité aux autres garçons de la bande, à qui on donne des surnoms de rue comme Anata, Swissy, Bouza, Bouko, Boucher. L'une des tâches principales du gang du Ramadan est de lui ramener des enfants égarés dont la disparition ne suscitera pas l'attention des autorités. On les amène sur le toit du train sous prétexte de faire une balade. Ramadan se cachait sur le toit en les attendant, et dès qu'il y en a un qui tombe dans le piège, Ramadan sort, l'enchaîne, puis le viole. Quand il a fini, il le jette du haut du train en marche. L'enfant tombe sur la voie ferrée et est gravement blessé, forcément à cause de la chute terrible, il ne peut plus bouger. Le train suivant, qui arrive en face à grande vitesse, ne peut le voir dans le noir jusqu'à ce qu'il soit trop tard, piétinant et déchirant le corps. Une mort horrible. Le même mode opératoire qu'il répète inlassablement. Le même qu'il a subi lorsqu'il a été violé et jeté du train lui-même quand il avait 12 ans. Comme s'il se vengeait de la vie en répétant le même scénario à l'infini. Ramadan viole et torture les enfants et coupe des parties de leur corps avec un couteau. Et quand il le supplie pour les laisser en vie, cela le rend plus euphorique, le poussant à les torturer davantage et à les jeter encore plus violemment. Certaines de ses victimes ont été jetées si fort qu'elles ont été écrasées au point que leurs os ont été mélangés avec de la chair et leurs traits de visage ont disparu. Désormais, les membres du gang appellent leur chef Al Turbini, qui signifie « train express », à cause du train turbo espagnol sur lequel il aime s'asseoir, sur le toit. Dans ce train, la voiture des climatiseurs y est plus basse que le reste des voitures. Elle lui permet de violer et de tuer ses victimes sans se faire entendre ni voir par qui que ce soit. Paradoxalement, cela se passe toujours alors que le train est en marche et que les gens riches et de grande classe sont assis sur les sièges dans une atmosphère climatisée en dégustant des collations, ne soupçonnant absolument pas ce qui se passe juste au-dessus de leur tête. les délits d'Al-Tourbini ne se limitent pas aux gares. Un jour, par une nuit noire, un sans-abri de la région, Mohamed Kamal, entre dans l'un des tunnels du métro pour passer la nuit. Mais le sort perfide avait amené Al-Tourbini et sa bande à passer du temps dans ce même tunnel. Ils attrapent immédiatement le garçon et lui prennent les quelques pièces de monnaie qu'il avait dans la poche. Puis Al-Tourbini demande à son gang de violer le garçon à tour de rôle. Après cela, Al-Tourbini leur ordonne de sortir et de le laisser seul avec lui. Il le viole lui aussi, puis il attrape une grosse pierre et lui casse la tête. Et ne le laisse qu'après s'être assuré de sa mort. Al-Tourbini et sa bande ont propagé la terreur dans 6 gouvernorats égyptiens pendant 3 ans, entre 2004 et 2007. Au cours de cette période, de nombreux enfants innocents ont disparu et d'autres ont été retrouvés tués, d'une façon effroyable. Toutes les victimes étaient des garçons, sauf quelques rares filles, la plupart jetées du haut du train. Mais certaines sont noyées dans les canaux et les égouts. Certaines ont même été jetées du haut des réservoirs d'eau ou enterrées vivantes dans les tunnels. Une fois, Al-Tourbini a voulu violer un membre de son gang, Hamad Naji. Le garçon a eu peur, peut-être parce qu'il savait que la mort l'attendrait après le viol. Il n'a donc pas eu d'autre moyen de survivre que d'aller à la police et de leur parler des crimes du gang. La police a arrêté Al-Tourbini et l'a emprisonné pour quelques mois, pour avoir agressé sexuellement un enfant. À sa sortie de prison, Al-Tourbini demande à son gang de lui ramener Hamad Naji. Le gang réussit à trouver Hamad et le traîne jusque dans le magasin du train. Le garçon est horrifié quand il voit Al-Tourbini. Il tente de s'échapper, mais le piège est resserré sur lui. Al-Tourbini ordonne à son gang de célébrer l'événement, ce qui signifie violer le garçon à tour de rôle. Ils le violeront pendant 3 heures jusqu'à ce qu'il commence à saigner. Après cela, Al-Tourbini va lui attacher les mains et la bouche, lui bander les yeux, puis le porter sur son épaule jusqu'à la surface d'un réservoir d'eau abandonné de 30 mètres de haut et le jeter au sol. Il est mort sur le coup. Un jour, un préposé à l'entretien a accidentellement trouvé un squelette appartenant à un enfant dans les tunnels de la station de métro Shubra Al-Kaïma, au nord du Caire. Quelques jours plus tard, le corps d'un deuxième enfant est retrouvé sur la voie ferrée à Alexandrie. Et peu de temps après, on trouve le corps d'un troisième enfant à la gare de Tanta. Après une inspection approfondie et une fouille des lieux, la police retrouve 12 autres cadavres d'enfants. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Toute la société égyptienne est ébranlée. Des enfants qu'on kidnappe et qu'on tue. Cela stimule tous les organes de l'État, la police, les experts en recherche criminelle, les professeurs de psychologie et de sociologie, et les médias et les journaux. Les familles prennent peur et empêchent leurs enfants d'aller dans la rue ou d'aller à l'école. Les chaînes satellites se mettent à discuter des détails du crime, et des émissions débats commencent à mettre en lumière le problème des enfants des rues. L'affaire cause beaucoup d'embarras aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Ainsi, la police va utiliser toutes ses capacités pour suivre l'affaire et exposer ses multiples dimensions. Des milliers de policiers et d'enquêteurs ont été recrutés pour poursuivre les auteurs dans les provinces où le crime a eu lieu et des arrestations massives ont été lancées dans tous les endroits où des mendiants, des sans-abri, des dépôts de drogue et des prostituées ont été trouvés. Parmi les personnes arrêtées figure l'un des membres du gang, Hamad Samir, 16 ans, connu sous le nom de Bouko. À l'époque, il fuyait Al-Tourbini, car ce dernier cherchait à le tuer, après avoir découvert sa relation sexuelle avec une certaine Aza Barbache, secrètement mariée, par un mariage hors-fille sans témoin, très répandu en Égypte, à Al-Tourbini. Interrogé, Bouko est parfaitement prêt à coopérer. Il demande juste qu'on le protège de son chef de gang qui le traque pour le tuer. L'officier lui promet la protection totale. Alors, Bouko déballe tout sur leurs activités. Il donne des détails très intéressants sur la mafia des enfants des rues du Caire et environ. Et comment ils arrivent à être violents et tuer d'autres enfants. Il informe les policiers des noms des membres du gang et les guide vers où les trouver. Ce fut le premier fil qui a conduit la police à arrêter les membres du gang un à un et ensuite à réussir à attraper Al-Tourbini. Très malin, il a pourtant réussi à se faufiler plusieurs fois entre les mailles du filet que lui tendait la police. Et ce n'est qu'après bon nombre d'embuscades dans des endroits fréquentés par le tueur qu'il est enfin capturé par la police. On présente Ramadan devant le parquet et les enquêteurs dans un tollé de colère populaire. Il explique comment il a violé et tué les enfants et souligne qu'il a des spécifications spéciales pour les enfants, la plus importante étant que l'âge ne dépasse pas plus de 12 ans. Spécification connue de tous les membres de son gang lorsqu'ils offraient un enfant à lui. Peut-être que son insistance sur cet âge provient du nœud psychologique qui l'a accompagné tout au long de sa vie à cause de son viol au même âge. Ramadan déclare au procureur qu'il est possédé par une femme djinn et qui lui a ordonné de commettre les crimes. Il admet n'avoir jamais eu de sentiment de culpabilité ou de remords après le viol et l'assassinat des enfants. Il n'a éprouvé de la sympathie pour aucun d'entre eux. Le viol et le meurtre sont devenus une routine quotidienne pour lui. Il ne connaît plus le nombre de ses victimes et s'en fiche. On se rend compte qu'on est devant un monstre. Toute la salle est paralysée. Les enquêtes policières, les aveux d'Al-Tourbini et de sa bande, ont conduit à la découverte de 17 autres corps, portant le nombre total de victimes à 32. Ainsi, Al-Tourbini est devenu le tueur en série le plus important en Égypte en termes de victimes connues. Avec son complice, Hanata, de son vrai nom Farag Samir Mahmoud, Ramadan est reconnu coupable de meurtre sur les 32 victimes. Comparu devant le tribunal correctionnel de Tanta en 2007, il est rapidement condamné à mort avec son assistant et main droite Hanata. Les autres membres du gang sont condamnés à de longues peines de prison et placés en prison pour mineurs en raison de leur jeune âge. 3 ans plus tard, le jeudi matin 16 décembre 2010, Al-Tourbini et Hanata sont emmenés à la chambre d'exécution. Leurs visages sont pâles et tremblants, et lorsqu'on demande à Al-Tourbini s'il a quelque chose à dire, il répond qu'il n'a rien à dire. Le bourreau lui met la corde autour de son cou, et quelques minutes plus tard, son cadavre se balance à la potence. Peu après la mort du monstre, Al-Ahram, un journal égyptien largement diffusé, a rapporté que certains produits en Égypte avaient été nommés d'après le surnom de Mansour, Al-Tourbini. Des marchands de moutons ont donné le nom de Al-Tourbini au plus gros mouton de leur cheptel, et même certains conducteurs de tuk-tuk ont décidé de renommer leur véhicule Al-Tourbini pour attirer les clients. Le célèbre auteur et journaliste John R. Bradley a commenté dans son livre sur l'Égypte intitulé « La terre des pharaons, au bord du gouffre d'une révolution » que ceci indiquait pour lui clairement que quelque chose avait certainement terriblement mal tourné avec la société égyptienne contemporaine. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.